6h45 sur France Culture. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier. Si seulement on avait l'occasion parfois de parler d'amour dans les relations internationales, mais c'est pas souvent.
Hélas, et ce sera pas le cas aujourd'hui.
Surtout pas le cas aujourd'hui.
Au sommaire des enjeux internationaux, l'offensive turque dans le nord-est de la Syrie, vue du côté syrien.
Oui, l'offensive a été donnée hier soir, comme prévu, plus précisément contre les forces kurdes positionnées dans le nord-est de la Syrie. Près de 200 positions ont été bombardées par l'aviation et l'artillerie turque, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ces opérations ont déjà fait une quinzaine de morts, dont des civils. Des milliers de personnes ont également pris la fuite. Alors l'état-major turc avait déjà fait part de son plan, prendre dans un premier temps le contrôle d'une bande de territoire de 30 km de large et de 120 km de long, puis étendre cette zone en longueur sur 480 km de l'Euphrate jusqu'à la frontière irakienne. Et c'est cette zone que l'on va étudier avec vous, Leïla Vignal. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes maîtresse de conférences en géographie à l'université Rennes 2. Vous travaillez en particulier sur les transformations spatiales et sociales liées au conflit, en particulier le conflit syrien. Alors avec vous, on peut commencer par décrire ce territoire du nord-est de la Syrie que la Turquie veut sanctuariser. C'est ce que les Kurdes appellent le Rojava, ou la Fédération démocratique de la Syrie du Nord.
Alors le territoire que la Turquie vise dans cette opération, d'après la description des autorités kurdes, c'est un territoire qui est beaucoup plus restreint que le territoire dit du Rojava, selon l'appellation des Kurdes. Et ce territoire du Rojava, c'est un territoire récent hein, qui est passé sous le contrôle des forces syriennes démocratiques au cours des dernières années, sachant que les forces démocratiques syriennes sont une coalition de forces qui sont dominées par le parti du YPG, qui est l'un des partis turcs, qui est kurde syrien, et qui est devenu dominant au cours des dernières années. Et ce territoire du Rojava est un territoire extrêmement mixte, puisqu'il combine des zones de peuplement à majorité kurde et des zones de peuplement à majorité arabe.
Et l'armée turque, pas folle, est passée par les localités à majorité arabe.
L'armée turque, pour le moment, rentre dans le ventre mou de ce Rojava, qui sont effectivement les zones à peuplement majoritairement arabes, qui sont sur lesquelles le contrôle du YPG est moins établi, si tant est qu'il le soit véritablement dans les zones kurdes, mais dans les zones de peuplement majoritaire kurde.
Ras El Ain et Tel Abyad sont les localités par lesquelles l'armée est passée. Ces Kurdes de Syrie, il faut rappeler que ce ne sont pas les Kurdes de Turquie qu'Erdogan considère comme ses plus dangereux ennemis, mais ils sont évidemment liés.
Alors, les Kurdes de Syrie, c'est une vaste question. Quand on parle des Kurdes de Syrie, c'est un raccourci. Dans la situation actuelle, on parle essentiellement du YPG, donc ce parti qui est un parti tout à fait affilié au parti du PKK, qui est donc un parti kurde turc. Et le YPG est devenu a été la branche du YPG, donc la branche syrienne du PKK date de 2003. Donc c'est un parti assez récent et qui, à la faveur du conflit syrien, est devenu le parti dominant dans les espaces kurdes de la Syrie.
Ce sont ces Kurdes dont on rappelle évidemment qu'ils ont combattu l'État islamique avec les troupes étrangères engagées contre Daesh. Ce sont les Kurdes qui ont résisté à l'offensive de l'État islamique contre Kobané. Ce sont eux qui ont libéré Raqqa en 2017. Mais l'État islamique n'a pas disparu de la région pour autant. Il y a encore une semaine, un milicien des forces démocratiques syriennes était assassiné par l'État islamique, qui a filmé la scène à Ain El Issa, donc la capitale administrative de la région, dont on dit qu'elle est poussiéreuse, cette capitale. En tout cas, il y a encore des cellules de l'État islamique dans la région.
Il y a absolument des cellules de l'État islamique dans la région, dans la mesure où une partie du personnel de l'État islamique était aussi un personnel syrien. Et c'est particulièrement dans les zones, évidemment, à peuplement majoritairement arabe que se trouvent ces cellules de l'État islamique, puisque elles ne se retrouvent pas évidemment dans les zones de peuplement kurde. Et ce que l'on observe, c'est effectivement une résurgence de cellules et surtout un potentiel de résurgence de ces cellules qui sont liées au fait que les SDF et surtout le YPG se retrouvent les forces démocratiques syriennes et évidemment, derrière les forces démocratiques syriennes, il faut lire le YPG, se retrouve à la tête d'un immense territoire qu'il doit à la fois administrer et duquel il doit assurer la sécurité. C'est vraiment la première fonction et la première attente des populations, c'est que le YPG puisse, et que les Kurdes puissent assurer la sécurité. Et la question de la sécurité est évidemment beaucoup plus difficile à assurer dans les territoires à majorité arabe, dans lesquels l'État islamique était extrêmement implanté, comme nous le savons.
La question de la sécurité se pose aussi parce qu'il y a, à proximité de cette zone, des prisons et des camps dans lesquels sont détenus des djihadistes étrangers. On parle du risque de leur évasion, de leur dispersion. Si les Kurdes ne sont plus là pour les surveiller, ces lieux de rétention, ils détiennent en tout 2000 ressortissants étrangers et 3000 femmes et enfants dans le camp d'Al-Hol. Le premier ministre irakien, Adel Abdelmadi, a récemment présenté aux Européens, sans réponse de leur part apparemment, un plan pour se délester du poids des prisonniers djihadistes dans ses prisons à lui, en Irak, et qui passe notamment par le financement d'une prison dans les zones kurdes de Syrie. C'est ici que le président irakien voudrait voir construire une immense prison financée par les Européens pour les prisonniers djihadistes.
Oui, alors les projets du premier ministre irakien restent des projets. Ce qu'on peut constater pour le moment, c'est qu'effectivement les camps qui retiennent les djihadistes et les familles des djihadistes se trouvent dans cette région. Alors le camp de Al-Hol est, d'après ce que j'ai compris, n'est pas compris dans la zone de sécurité qui est visée par l'offensive actuelle turque. Hein, tout ça reste à voir ensuite sur le terrain. Mais effectivement, pour les puissances occidentales, et surtout pour les pays européens, c'est un des grands enjeux de la déstabilisation en cours accentuée, parce que la région est déjà finalement stabilisée par les forces démocratiques syriennes, mais on reste quand même dans un contexte de grande déstabilisation. Mais le potentiel de déstabilisation lié à l'offensive kurde pour les pays européens,
Je vous en prie.
Pour les pays européens, l'un des enjeux pour nous, c'est évidemment le devenir de ces djihadistes et les Kurdes. De Syriens du YPG agitent justement cette menace d'une déstabilisation qui amoindrirait leur contrôle sur ces populations djihadistes qu'ils contrôlent au sein de ces camps.
À contrôler cette zone de sécurité de 480 km de long, 30 km de profondeur qui est en projet pour la Turquie. Ankara dit qu'elle aura la vocation d'ici quelques temps à accueillir au moins 1 million de Syriens sur les 3 600 000 réfugiés en Turquie. Mais parce que la Turquie a accueilli beaucoup, beaucoup de réfugiés syriens, notamment à la faveur ou la défaveur de la désorganisation européenne et du clivage européen sur ces questions. Mais le droit international permet ça, de replacer des réfugiés qui ont fui un pays en guerre dans le pays qu'ils ont fui et qui est toujours en guerre,
alors,
en Syrie?
Le droit international, en ce qui concerne la protection des réfugiés, donc qui est inscrit dans la Convention de Genève de 1951, dont la Turquie est signataire, mais seulement pour l'un de ses volets, il n'est pas signataire pour un autre volet. Bon. La Turquie est quand même bénéficiaire de 6 millions d'euros dans le cadre d'un accord avec l'Union, 6 milliards d'euros dans le cadre d'un accord entre l'Union européenne et elle-même pour accueillir 3,5 millions de Syriens sur son territoire, ce qui est évidemment une population énorme et d'une certaine manière est tenue, même n'étant pas signataire de la partie du protocole de la Convention de Genève qui
interdit de replacer des...
La Turquie ne peut pas refouler. Il y a une clause dans la Convention de Genève qui s'appelle la clause du non-refoulement qui interdit de renvoyer des populations qui ont fui un territoire en guerre et de les refouler dans un territoire où elles pourraient être mises en danger. Donc ce projet de renvoi des Syriens sur ce territoire contredit effectivement le droit international de la protection des réfugiés et c'est probablement une carte qu'agite aussi la Turquie vis-à-vis des pays européens et des États-Unis pour appuyer sa position.
Et sans doute un prétexte pour empêcher à tout prix la constitution d'un embryon de Kurdistan autonome à sa frontière. Comment peut réagir Bachar al-Assad, dont on a vu ces derniers temps qu'il était, alors en tout cas publiquement ou officiellement, prêt à écouter les doléances des Kurdes et d'établir une sorte de discussion avec eux. Mais les Kurdes veulent quand même jusqu'à un État presque fédéral dans le cadre de la future constitution syrienne. Ça, Bachar al-Assad n'est pas prêt à l'accepter. Mais en tout cas, il y a des discussions, il dialogue. Donc comment Bachar al-Assad peut réagir à la fois à cette agression des Kurdes, mais surtout à cette invasion de son territoire, la troisième de la Turquie depuis le début de la guerre?
Oui, alors effectivement, cette invasion montre que tout le discours du régime de Bachar al-Assad, disant qu'il a gagné la guerre, est un peu fictionnel. Hein. La Turquie est déjà présente, il faut le rappeler, sur le territoire syrien, dans la poche d'Ifrin, depuis la dernière offensive, la deuxième offensive turque. Donc les Turcs sont présents, les Américains sont présents, il y a également des forces occidentales et françaises qui sont présentes. Il y a beaucoup de gens présents, il y a les Iraniens, il y a les Russes qui sont présents sur le territoire syrien. Donc le régime, la question d'un éventuel Kurdistan syrien n'est pas tant un problème pour le régime syrien à l'heure actuelle que pour les Turcs. Hein. C'est pour ça qu'ils ont agi. Il me semble que le régime syrien, pendant ce temps-là, bombarde avec les Russes la poche d'Idlib. Hein, c'est ça l'autre grande actualité de la Syrie aujourd'hui. Et probablement va laisser jouer un petit peu cette offensive turque qui... Il va falloir voir jusqu'où elle va, hein, puisque la Turquie n'a pas quand même les mains libres. Les Américains, ils ne vont pas vouloir rentrer non plus complètement directement en confrontation avec les Américains. Et probablement que le régime a davantage intérêt à laisser affaiblir les Kurdes du YPG pour l'heure.
Merci beaucoup Leïla Vignal d'avoir été avec nous ce matin. Et dans le journal de 7h, la rédaction de France Culture reviendra sur les réactions européennes et américaines, notamment de cette offensive turque. Merci à vous d'avoir été avec nous. Bonne journée.